Ce matin, ça sera plus une prédication. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui, j'arrête de toucher les micros, d'accord. Bonne semaine. Peut-être d'autres ont passé une semaine un peu moins bien. Cette prédication, c'est plutôt un témoignage que de la bonté du Seigneur envers nous, que, on va dire, une prédication classique. Voilà, et je voudrais témoigner de comment Dieu s'occupe de nous. On a un Seigneur formidable qui est là chaque jour. Des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Mais je pense que quand on le voit, c'est bien aussi d'en témoigner. Et il arrive très souvent, parfois, souvent, que Dieu attire notre attention d'une manière surprenante. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la semaine passée, donc, parce qu'on est le premier jour de la semaine, c'est la semaine d'avant, voilà, j'étais un peu tracassé parce que, j'avais des décisions à prendre par rapport au boulot, l'activité professionnelle. Enfin, voilà, une de mes collègues qui a réussi sa formation et a fini son contrat de travail, donc elle part pour de nouveaux horizons, c'est normal. Donc, pour étudier à un niveau supérieur et faire de nouvelles expériences dans d'autres structures. Voilà, c'était légitime et nécessaire pour elle. Mais bon, du coup, il faut tout réorganiser. Et je ne savais pas... Vous savez, le vélo, dans la tête, il grimpe vite, en tout cas chez moi. Et je ne savais pas quelle décision prendre, comment faire, comment articuler l'avenir. Et donc, ça m'a un peu pris la tête. Et d'autant que bon, j'avais une certaine urgence à prendre la décision. Donc, quand c'est comme ça, j'essaye de réfléchir quand même. Et puis, avec Christine, on en parle. On avait prié pour ça. Mais vous savez, quelquefois, on dépose nos fardeaux au Seigneur. Et je ne sais pas pourquoi, quelques heures, quelques jours après, on les reprend. Comme ça. Et du coup, le souci arrive et c'est comme ça. Alors, quand c'est comme ça, alors je me suis dit, je vais chercher le conseil de quelqu'un. Cette personne, elle n'était pas là. Je me suis dit, t'as qu'à aller voir la comptable. Elle est de très bons conseils. Je cours là-bas la voir et puis elle était en télétravail. Et donc, j'arrive à la voir et puis elle me donne des trucs, mais je n'étais pas convaincu. Et donc, je rentre à pied, toujours le petit vélo qui tourne, j'appelle Christine. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas. Et au moment où j'appelle, où elle décroche, où on commence à parler, je regarde par terre et je vois ça. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Tant pis pour vous. Le verset, c'est un feuillet du calendrier de la bonne semence. Bon, il y a quelqu'un, je pense, dans la rue qui distribue et qui dit « D'où viens-tu et où vas-tu ?» Je me suis dit « Seigneur, ça c'est moi. » Et il y a la réponse « Moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin où tu dois marcher. » Il n'est pas bon le Seigneur ? Alors, tout de suite, j'ai vu la main de Dieu, parce que la concomitance des événements, le type de verset biblique à ce moment-là, dans la situation, voilà. Et puis, ce premier verset m'a parlé, et je me suis dit, mais je vais regarder un petit peu. Alors, je vous propose d'aller un peu plus loin dans le texte. C'est Genèse 16, 8, c'est la parole que Dieu a donnée à Agar. Si vous voulez, on le lit. Ce livre de la Genèse, il est impressionnant. Sarai, donc avant qu'elle s'appelle Sarah, vous vous rappelez, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants ?» « Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Saraï, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, donc Agar, hein, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Saraï dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Sarah la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarah, ma maîtresse. » Alors, c'était beaucoup plus compliqué pour elle que pour moi, je vous avoue. Et on voit bien que quand on lit l'histoire de cette famille, l'histoire n'est pas simple, c'est compliqué, il y a de l'ambiguïté, hein, puisqu'il y a la femme d'Abraham, Sarah, et Agar, pour le coup, servante de Sarah, mais aussi femme d'Abraham, comme le dit le texte, et la donna pour femme à Abraham. Et donc, qui est-elle vraiment, cette Sarah? Est-ce qu'elle est femme d'Abraham? Est-ce qu'elle est servante de Sarah? Voilà, on comprend que dans le texte, qu'il y a une méprise, une injure pour Sarah et peut-être pour Agar de l'arrogance vis-à-vis de Sarah. Et aujourd'hui, on en est toujours là. Hein. C'est toujours compliqué. On voit encore les fruits entre ces deux descendances. Mais en tout cas, voilà, Agar fuit, elle est incomprise, et Dieu l'arrête par une question. Et c'est souvent, d'où viens-tu? Et je ne sais pas vous, mais moi, les questions m'arrêtent. Très souvent, d'où viens-tu? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ta vie? Quelles sont tes blessures? Quelles sont tes défaites? C'est quoi les galères que tu vis? En ce moment, quel mauvais choix as-tu fait? Et puis, où vas-tu? Tu vis pourquoi? Tu vis dans quel but? C'est quoi la direction de vie que tu prends? C'est quoi cette direction? Est-ce que Dieu est au centre? Et voilà, et Dieu nous interpelle très souvent en nous arrêtant pour que nous puissions, d'une manière honnête, regarder notre passé, regarder notre futur, pas pour nous faire tomber, hein, mais vraiment pour, souvent pour nous ramener à lui. Vraiment pour nous ramener à lui. Et franchement, comme tu l'as dit, Aaron, c'est vraiment le meilleur endroit où on peut être. C'est auprès de lui, c'est être dans sa maison. Voilà, il est la source de la vie éternelle. Nous, on voit pas très loin, en général, dans notre vie. On voit souvent à court, moyen terme. Mais Dieu, avec les yeux de la foi, Dieu nous fait voir, il veut qu'on aille très, très loin avec lui. Il veut nous faire voir au-delà, au-delà. Et puis, ce verset d'Ésaïe, eh bien, si tu peux le remettre, c'est la réponse de Dieu qui dit, « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin où tu dois marcher. » Donc, qui t'enseigne à ton profit, ça veut dire que le Seigneur, il vise notre bien, il ne vise pas notre mal. Il ne veut pas nous faire marcher à côté, hein, mais il veut vraiment nous faire marcher dans le bon chemin, celui qui est bon pour nous, celui qui nous amène à l'épanouissement, à la paix, à la vie. Et j'ai envie de te dire, à ta vraie vocation, ce dont pourquoi le Seigneur t'a fait et ce dont pourquoi le Seigneur t'appelle. Alors, le témoignage n'est pas fini. Parce qu'une fois que j'ai lu ces versets, J'ai terminé la discussion avec Christine. On a halluciné au téléphone, mais j'étais bien, j'étais serein. Vous savez, je marchais plus sur le trottoir, je flottais comme ça. Et je marchais en direction, je marchais en direction du magasin. Je passe au coin de la boulangerie, puis il me traverse une idée. Je me dis, tiens, je vais acheter un café à emporter pour amener à ma collègue de travail. Et au moment de payer, la boulangère me dit, mais ça va, Eric? Alors, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi elle me dit ça? Bon, il y a quelque chose, elle a perçu quelque chose en moi. Puis je me dis, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, oui, ça va, bon, ça va bien, merci, salut, au revoir. Parce que bon, j'ai pas le temps, hein, il y a du boulot quand même, hein, il faut bien avancer, quoi. Ou alors je me dis, non, non, tu prends le temps, tant pis, tu prends le temps, tu vas témoigner, tu vas dire ce qui t'arrive, tu vas expliquer vraiment ce que tu as vécu. Alors je lui raconte pourquoi ce qui m'est arrivé, enfin, rapidement, parce que bon, on est dans une boulangerie, elle est au travail aussi, hein, et je lui montre ce petit feuillet-là, je fais, tu vois, regarde, c'est incroyable, je trouve ça, j'étais dans le tracas, mais tu vois comment Dieu, il est bon, quoi. Comme Dieu, il prend soin de nous, comme il prend soin de moi. Puis elle me fait, ouais, ben, c'est chouette. Allez, à plus. En gros, hein. Bon, je me pars, je paye. Je dis, bon. Je me dis, bon, ben, ça lui a pas parlé. Je dis, Seigneur, c'est pas grave. Toujours un témoignage à donner. Puis on retourne à sa petite vie. Et puis, voilà. Et puis le lendemain. Le lendemain, mon voisin de magasin, il me dit, tiens, viens, enfin, on va aller boire le café, on va à la boulangerie. Et puis, on discute 10 minutes. Et puis, après ça, on va pour payer. Et puis, la boulangère me dit, Eric, il faut que je te montre un truc. Elle a la banane comme ça, la souriante. Il faut que je te montre un petit truc. Regarde, regarde, regarde. Et elle me montre ça. Elle me dit, tu sais, c'est fou parce que j'ai trouvé ça après toi. Et c'est le lendemain. Et elle me dit, en plus, tu sais, hier, enfin, c'était la veille, elle me dit, hier, j'étais pas bien. Enfin, tu sais, il y a des jours avec, des jours sans. Et là, c'était un jour sans. Et elle me dit, ben, écoute, regarde, j'ai trouvé ça. Tu vois, Dieu, il s'occupe de moi aussi. Ah ben, j'ai dit, bien sûr que Dieu, j'ai dit, mais là, c'est même plus que s'occuper. Là, il t'appelle. Il t'appelle, franchement, il t'appelle, quoi. Et elle me dit, tu sais, en plus, le 19 juin, c'est mon anniversaire. Oh, la concomitance des événements. Alors, ben, je lui dis, mais tu sais, est-ce que tu as bien compris ce qui est écrit? Alors, c'est écrit, saisir l'espérance proposée, ça correspond quand même. Que nous avons comme une ancre de l'âme sûre et ferme, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant le temps des siècles, Jésus, notre espérance. J'ai fait, est-ce que tu as bien compris, tu as bien lu? Il me fait, oui, c'est pour moi. Je sais que c'est pour moi. J'ai dit, eh bien, écoute, là, on n'a peut-être pas trop le temps, mais peut-être que tu veux qu'on en reparle. Ouais, ben, évidemment, hein, je l'ai invitée au groupe qu'on va faire, hein, dans le quartier, et puis elle est OK pour recevoir des versets bibliques tous les, enfin pas tous les jours, mais de temps en temps. Et voilà. Et je me dis, mais ça m'a fait réfléchir à ça, parce que en fait, ça m'a encouragé à être intentionnel dans le témoignage. Vous savez, c'est pas toujours évident, hein. On se retrouve devant quelqu'un. Si on a ça dans le cœur, de se dire. Cette personne, est-ce qu'elle connaît le Seigneur? Est-ce qu'elle ne la connaît pas? Je ne sais pas. Mais comment je peux lui apporter? Comment je peux lui apporter l'Évangile? Est-ce que un petit peu de lumière de Dieu, un peu de sel de la terre, comment lui indiquer le chemin de la vie éternelle? Comment lui indiquer être le reflet un peu de Jésus, vous savez, dans. Il faut être. Alors au début, ben, c'est pas évident, on n'y arrive pas. Au début, ben, je me rappelle, des fois, je me lançais, ben, je me prenais des tartes, hein, comme beaucoup. Mais bon, après, Avec l'expérience, on arrive. Sylvie, je vois, je sais que toi, tu témoignes aussi. Et c'est souvent comme ça. Mais ce n'est pas grave. On apprend. Hein, c'est en forgeant qu'on devient. Voilà. Et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Ça, ce n'était pas prévu. Mais voilà, on se prive souvent. On se prive souvent d'être les témoins. Et je dis on se prive parce que quand on témoigne du Seigneur, c'est nous les premiers bénéficiaires du témoignage. Et on reçoit énormément parce qu'on voit la main de Dieu. On voit la main de Dieu agir. Parce que c'est vraiment la volonté de Dieu que nous soyons des témoins. Et c'est là qu'on voit la main de Dieu. Et puis ça fait partie du fruit que l'on porte. Témoigner, ça fait partie du fruit que nous avons, que le Seigneur nous donne, nous demande de faire. Hein, ce fruit découle de la transformation de Dieu en nous, hein, qu'opère la puissance de Dieu en nous. Et alors, souvent, quand on parle de la puissance de Dieu, on voit les miracles, on voit les choses comme ça. Non, c'est souvent à un niveau très basique. On aimerait faire des miracles. Mais bon, cette transformation, elle agit simplement au niveau de l'amour de Dieu et du prochain. Je me dis des fois, peu importe comment ça va se manifester, mais peu importe nos points forts, nos points faibles, ce qui est important, c'est que nous sommes des rachetés et nous avons cet amour qui agit en nous. Et voilà, nous sommes faits pour aimer. Nous sommes faits pour aimer Dieu, évidemment, aimer notre prochain. Nous sommes tous concernés. Tous voués à partager l'amour qu'on a reçu du Seigneur. Et oui, il y a des caractères différents dans l'Église. Il y en a qui sont plutôt leaders, des chrétiens qui ont une fougue à toute épreuve. Vous savez, un peu comme David qui lance le caillou sur Goliath. Il n'a pas peur. Pharaon, tu n'as pas peur d'aller là-bas ? Tu nous demandes de prier, et je comprends, mais voilà, tu as pris cette décision d'y aller et c'est super. Le Seigneur va t'accompagner. Il y en a qui ont le goût du risque, comme ça. Le risque, ce n'est pas un problème, puisqu'ils se disent, c'est le type de chrétien leader, ils se disent, ben, Dieu est avec nous, il n'y a pas de problème. Tu vas aller déménager au fin fond du monde, dans un endroit agressif et dangereux, pas de problème. Je réponds à l'appel, Dieu est avec moi. Et c'est vrai. Puis il y a des chrétiens différents, peut-être plus réfléchis, où Dieu nous demande de calculer la dépense pour construire la tour, la faisabilité, la stabilité dans le Seigneur. En général, c'est chez ces personnes-là, est fondamentale. Des chrétiens, on parle de chrétiens plus ancrés, comme on dit. La fidélité, c'est central. Là où on est, on assure, on ne va pas aller trop vite, on avance de manière sûre et certaine, et c'est bien comme ça. Et il n'y a pas de meilleur chrétien plus l'un que de l'autre. Le Seigneur a pourvu plusieurs personnalités dans l'Église et dans son royaume. Et l'Église, elle avance comme cela, de manière avec un accélérateur, un frein, etc., pour ne pas faire n'importe quoi et aussi pour avancer. Donc, comme il est écrit, et tout le corps bien coordonné avance sous la directive du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne le témoignage, nous sommes tous concernés. Tous. Et donc, je vous encourage ce matin à être intentionnel. J'ai pensé à l'image de la graine, parce que dimanche dernier, on a vu par la prédication que nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant et qui tellement qu'on peut même pas imaginer la puissance de Dieu. Et nous sommes, on parlait de, nous étions comme des lettres avec une histoire. Et j'ai envie de dire ce matin, nous sommes une graine. Cet été, j'ai planté des graines de haricots, des haricots nains, préparés, tout bêchés, machin. Il n'y a rien qu'à pousser. Je vous promets, il y a trois graines sur deux rangées qui ont poussé. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ce travail pour rien? Si vous plantez une graine et que rien ne pousse, on n'est pas satisfait du tout. Il y a quelqu'un qui a dit que les croyants reçoivent la graine et les enfants de Dieu portent du fruit. Waouh! C'est-à-dire que chez les enfants de Dieu, la graine, elle produit du fruit. Elle s'enracine, elle pousse. Peu importe combien hein, de fruits, peu importe comment, elle porte du fruit. C'est ce qui prouve que la graine est vivante, en fait. Si elle porte pas de fruits, la graine est morte. Et c'est tout le débat du livre de Jacques, hein, La foi, les œuvres. Montre-moi tes œuvres et je te dirai si tu as la foi, en fait. Voilà, le témoignage, c'est aussi un aspect du fruit de notre foi qui prouve que la graine de la grâce reçue dans notre cœur est bien vivante. Et elle s'enracine pour produire une plante vivace et fructueuse. Tu peux mettre Hébreux 6, je crois que c'est celle d'après. En effet, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. De votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au saint. Amen. Et puis on arrive à la troisième partie et ça sera ma conclusion. Si tu peux mettre ça. J'ai entendu un oh. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous parle? Abraham, voilà, il est parti. Mais plus que, il y a un autre personnage aussi qui a fait ce voyage. On l'oublie quelquefois. Ben, c'est le père d'Abraham, qui s'appelle Terah. Terah, qui est parti de Ur. Et on va lire le texte. Je sais pas, j'espère qu'il tient dans la diapositive. On va lire le texte de cette histoire. Voici l'histoire de la famille de Terah. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Terah dans son pays natal, à Ur ou à Ur, en Chaldée, des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï. Et celle de Nahor, Milca. Milca était la fille de Haran, qui, outre Milca, avait eu une autre fille du nom de Yiska. Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Terah partir d'Ur des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils d'Aran, et Sarah, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Je l'ai mis en gras exprès. Mais arrivé à Haran, il s'y établir. Terah vécut 205 ans. Waouh. Puis il mourut à Haran. On peut remettre la photo. Merci. Donc, il part de Ur. Et il va là. Il se dit, je vais aller. Se dit où il a été appelé, je ne sais pas trop. On ne sait pas trop, le texte ne le dit pas. Et moi, je trouve qu'il n'a pas pris le chemin le plus court. Je ne sais pas vous, mais. Bon, il y a du désert, hein. Ah ben, c'est marrant parce que ça n'a pas imprimé. Il n'y a plus d'imprimé. Pas grave. C'est pas grave. Il n'a pas pris le chemin le plus court. En fait, je pense qu'il y a un peu de désert, mais a priori, il y avait quand même des routes. Il y avait vous savez, les caravanes, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi il est passé par là, en fait? Eh bien, si on regarde bien, on voit qu'il a suivi le fleuve. Il a suivi l'Euphrate. pour avoir de l'eau. Et le texte nous dit qu'il s'arrêtait à ici. Donc ça, c'est le voyage d'Abraham. Terra, lui, il s'arrêtait là. À Charan. Charan, Haran. C'est pareil. Pas la peine que je regarde le texte, il n'y en a plus. Et je me dis, eh bien, tout simplement, il a suivi l'eau, c'est la sécurité. Et je crois que dans notre vie, bien souvent, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on veut bien suivre Dieu. Dieu nous donne une mission, mais au lieu d'aller tout droit vers la mission, eh bien, on aime bien notre petit confort et notre petite sécurité et on suit l'eau. Et Théra, il s'est arrêté donc à Haran. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que le fils d'Abraham, Haran, a le même nom que la ville. J'avais jamais fait gaffe à ça. Et j'ai regardé dans l'hébreu, c'est exactement le même nom. Et je me suis dit, mais peut-être que Théra, quand il est arrivé là-bas, alors on ne sait pas, tout n'est pas dit, mais j'ai imaginé qu'il s'est arrêté là parce que c'était le nom de son fils, en fait. Donc son fils qu'il avait perdu, et c'est une douleur, une épreuve dingue que je ne connais pas, mais voilà, qui est terrible. Et je me dis, Théra, il est resté dans le passé, en fait. Il a oublié Dieu, il a oublié la mission. Il pouvait aller au pays de Canaan, parce qu'il a vécu encore des dizaines d'années après. Après être installé à Haran, il a encore vécu du temps. Et je me dis, bien, il s'est arrêté. Et je me dis, pour nous, c'est exactement la même chose. Des fois, on a des projets, et je me dis, mais est-ce que tu t'es arrêté dans ton projet? Où tu en es? Et des fois, à force de regarder le passé, ben, on n'avance plus et on oublie. Alors, Farah, c'est un encouragement pour toi. Fonce. Va jusqu'au bout de ce que le Seigneur il te demande. Et je crois que c'est comme ça aussi pour notre vie tous les jours. Chaque jour, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes des témoins de la grâce et de l'amour de Dieu. Allons jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas en route. Et il faut garder la vocation et la bonne direction que le Seigneur nous donne. Et il y a un dernier verset, si tu peux l'afficher. C'est ce verset qui m'a encouragé aussi, qui dit, ben, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables dans le projet que Dieu nous donne, dans la vision que Dieu nous donne. » Et dans l'Église, c'est formidable, on a plein de projets. On a plein de projets, agrandir la salle, et une œuvre d'évangélisation au Samboul, en centre-ville. Et que le Seigneur nous conduise et nous amène à la réalisation de ces projets et ne pas perdre la motivation. Travailler de mieux en mieux. Et oui, on progresse. Hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen.